Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres.
Bonjour, ici Catherine Goulet-Cloutier en remplacement de Kate Bouchard. Aujourd'hui, on aborde la question du jugement et de la stigmatisation des addictions chez les personnes atteintes d'un cancer par les professionnels de la santé et par la population générale. Pour en parler, je reçois Camille Auriol, doctorante en psychologie à l'Université Toulouse Jean Jaurès en France, qui est actuellement en séjour de recherche à l'Institut Santé et Société. Camille, pourriez-vous d'abord nous présenter les grandes lignes de vos recherches?
Du coup, cette thèse consiste à identifier s'il y a des facteurs qui préexistent concernant le jugement et la stigmatisation donc des addictions chez les personnes atteintes de cancer. Par exemple, on sait que ces personnes sont en tous les cas stigmatisées, mais est-ce que ce soit le genre, le type de substance consommée, le niveau de consommation, le type de diagnostic de cancer ou autre peuvent influencer encore plus ce jugement donc, de la part d'autrui? Et on va se focaliser donc sur le tout venant et aussi sur les professionnels de santé qui sont amenés donc à prendre en charge ce type de patient.
D'accord. Avant de poursuivre avec les études que vous menez dans le cadre de votre thèse, j'aimerais qu'on aborde un peu la question du jugement et de la stigmatisation. Donc d'abord, peut-être nous expliquer c'est quoi le jugement, c'est quoi la stigmatisation, puis en particulier en quoi les deux concepts sont reliés et en même temps distincts l'un de l'autre.
Donc, la stigmatisation, ça serait la résultante de comportements et de jugements que les personnes attribueraient à autrui. Vis-à-vis, donc ça peut être d'une maladie ou d'une propriété de la personne, par exemple le genre, une ethnie ou une situation de handicap. Et quelle différence il y aurait entre donc, jugement et stigmatisation? En fait, le jugement de la part d'autrui ainsi que des comportements, on va dire plutôt physiques, entraîne de la stigmatisation. Donc, la stigmatisation englobe jugement, comportement négatif de la part d'autrui.
J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que le jugement et la stigmatisation ont été davantage abordés dans la population générale et moins en ce qui concerne les professionnels de la santé. J'ai l'impression, en fait, que le sujet pourrait surprendre dans le sens qu'on s'attendrait à ce que notre médecin ou l'infirmier qui nous suit soit plus neutre ou qu'il ou elle s'abstienne de porter un jugement de par son travail. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de ce phénomène-là, de la stigmatisation par les professionnels de la santé? Est-ce que c'est un phénomène fréquent? Puis, à votre avis, qu'est-ce qui mène les professionnels à porter ces jugements-là sur leurs patients et leurs patientes? Qui vont mener, ou puis en fait, plus que les jugements, mais même la stigmatisation.
Donc, en fait, je pense qu'il faut revenir un peu à la base et se dire qu'avant tout, ces personnes-là, je veux dire, les professionnels de santé sont des humains et donc ont évolué dans une société qui était déjà en prise à la stigmatisation, au jugement, aux stéréotypes, etc., qu'on porte à certaines personnes. Elles ont évolué et grandi dans ces sociétés-là et c'est souvent dur d'enlever de son esprit ces schémas qu'on a appris depuis l'enfance, même si donc c'est vrai que normalement pendant les études, que ce soit en médecine ou pour les infirmières, etc., on est censé apprendre la neutralité et le non-jugement, et heureusement que plein de professionnels de santé ne sont pas forcément dans le jugement, mais parfois, c'est indéniable et ça arrive.
Okay. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans vos recherches, dans la littérature, par exemple, des évaluations ou des données sur ce type de comportement-là chez les professionnels de la santé?
Alors, ce qu'on voit, c'est surtout que, en fait, oui, il va y avoir du jugement, et ce, d'autant plus envers certaines maladies. Par exemple, si on prend le cancer, donc, qui est dans ma recherche, si le médecin est confronté à une personne qui a un cancer du sein, un cancer ou un cancer du poumon, forcément, on sait qu'il va être plus jugeant envers la personne qui a un cancer du poumon. Donc, ça a été montré dans la littérature. Et pourquoi? Ben, parce qu'on sait que souvent, ce cancer-là a pu être exacerbé par la consommation de tabac. Et donc, de suite, comme ça serait chez tout être humain, on va se dire, ben, elle a déclenché, enfin, cette personne a déclenché son cancer. Et donc, qu'on soit médecin ou pas, je pense que cette idée, on l'a. Donc, dans ces cas-là, oui, ils peuvent être jugeants. Et du coup, en fait, les personnes, elles vont ressentir ces jugements et cette stigmatisation. Et donc, effectivement, ça peut avoir des conséquences sur la prise en charge, puisque ce sont des personnes qui peuvent ne plus se rendre aux rendez-vous médicaux. Et en fait, qui vont ressentir énormément de honte et de culpabilité d'avoir eu ces comportements de santé, on va dire, malsains, que ce soit, ben, par exemple, de fumer, de boire ou de ne pas avoir fait d'activité physique, d'avoir eu une mauvaise alimentation. Et en fait, on va leur faire refléter, on peut, tous les professionnels de santé, encore une fois, ne font pas ça, mais elles peuvent ressentir que les professionnels de santé pensent ça, et forcément, elles peuvent désinvestir la prise en charge, alors qu'on le sait, pour une bonne prise en charge, le patient doit quand même être placé en tant qu'acteur de soins. Donc,
Et à votre avis, de ce que vous avez vu dans la littérature, est-ce qu'il y a une distinction entre le jugement ou la stigmatisation dans le cas des addictions par rapport à ce qu'on voit pour d'autres comportements? Par exemple, vous l'avez mentionné, ne pas faire d'activité physique ou avoir une mauvaise alimentation.
Je n'ai pas vraiment vu de recherche jusque-là qui s'intéressait au jugement et à la stigmatisation concernant les comportements de santé, que ce soit l'alimentation ou l'activité physique. Et je pense que, et aussi par rapport aux résultats qu'il y a dans ma thèse, que ces comportements de santé-là sont quand même bien plus pris en compte par les professionnels de santé qui ont, on va dire, en général, une meilleure connaissance des comportements à avoir. Du coup, ça, il n'y a pas vraiment d'études. Par contre, je sais qu'il y a aussi une différence, ne serait-ce qu'entre les addictions, et que, par exemple, le tabac va être en général plus jugé que la consommation d'alcool, qui est plus rentrée dans les mœurs, alors que le tabagisme, avec toute la prévention qui a été mise en place ces dernières années, c'est tout à fait différent.
OK, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais que vous nous présentiez l'étude que vous avez réalisée sur tabagisme et cancer du poumon. Pouvez-vous nous en parler et nous présenter les résultats que vous avez obtenus?
Du coup, on a mené une étude auprès de professionnels de santé et d'un public tout venant, où on présentait aux participants un ensemble de petites vignettes qui venaient décrire la vie d'une femme donc qui avait une consommation de tabac et à qui on venait diagnostiquer un cancer du poumon. Donc en fait, cette personne-là, soit elle fumait une cigarette par jour ou un paquet de cigarettes par jour, soit elle avait une activité physique régulière ou non, soit on lui diagnostiquait des lésions pulmonaires, donc non tumorales, soit un cancer à un stade précoce avec des chances de survie supérieures à 5 ans, ou un cancer à un stade très avancé où la personne a priori allait décéder dans l'année. Et donc, suite à ce diagnostic, soit cette personne arrêtait de fumer, soit elle réfléchissait à la possibilité d'arrêter de fumer, soit elle continuait sa consommation. Donc, nous, on voulait voir si, grâce à tous ces facteurs, quelle était la personne la plus stigmatisée, un profil de personne qui avait le plus de chances d'avoir un plus grand jugement de la part d'autrui. Et donc, les résultats qui, pour l'instant, ont été mis en lumière sont que le fait de recevoir un diagnostic d'un cancer à un stade très avancé viendrait, en quelque sorte, enlever tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Parce que les personnes ont tendance à se dire, de toute façon, elle va mourir dans l'année ou dans les mois qui suivent, donc elle ne va pas s'embêter à se sevrer, et tant pis maintenant si elle a fumé, c'est trop tard. Donc ces personnes-là recevraient beaucoup moins de jugements qu'une personne donc à qui on diagnostique un cancer à un stade précoce, qui a des chances de s'en sortir si elle suit bien son traitement, si elle arrête de fumer a priori, si elle se remet peut-être à avoir une activité physique, ou alors d'une personne qui a des lésions pulmonaires qu'on ne peut pas forcément soigner, mais qui, grâce à l'arrêt du tabac, pourrait se résoudre en quelque sorte. Et donc ça, c'est quand même la principale information. Et voilà, on voit qu'en tous les cas, fumer un paquet de cigarettes par jour est bien évidemment plus jugé que d'en fumer une ou deux. Mais c'est vrai que les professionnels de santé, eux, ont plus cette notion aussi de toute façon, qu'elle fume une cigarette ou 20, elle a les mêmes chances d'avoir un cancer. Donc, pour eux, c'est vrai que c'était moindre comparé au public tout venant qui, eux, n'ont pas forcément cette notion et qui se disent, bon, ben, fumer un peu moins, c'est moins grave.
Puis la deuxième étude que vous réalisez actuellement dans le cadre de votre thèse porte sur consommation d'alcool et cancer colorectal. Donc, pouvez-vous nous en parler de cette étude-là en question?
Du coup, ben, cette étude, on va dire, est en quelque sorte une jumelle de celle que je viens de décrire juste avant, sauf que cette fois, voilà, on retrouve des personnes qui consommaient de l'alcool avec une consommation, en tous les cas, qu'on pourrait considérer comme une addiction, donc plus ou moins sévère, où on va décrire une personne qui boit deux verres par jour, et donc tous les jours dans la semaine, ou une personne qui boit cinq verres par jour. Et donc, c'est vrai que là, déjà, on voit que les niveaux de jugement comparés à ceux du tabac sont vraiment inférieurs, alors que pour le coup, dans tous les cas, la personne semble addict à l'alcool. Mais voilà, l'alcool est plus accepté dans nos participants, et je pense dans le public français en général. Et je pense qu'il y a aussi une donnée très importante qui va rentrer en jeu là-dedans. C'est qu'en fait, les personnes ne voient pas forcément le lien entre boire et développer un cancer colorectal. Et je pense même développer un cancer en général, mis à part le cancer du foie, parce qu'on a peut-être été plus instruit sur cela. Mais pourtant, des études ont montré que boire de l'alcool pouvait engendrer ou exacerber les chances ou les malchances plutôt de développer de nombreux cancers, que ce soit des voies aérodigestives supérieures ou des cancers colorectaux ou du foie. Mais je pense que sur ce cas-là, en fait, les personnes plutôt du tout venant manquent de connaissances sur quels sont vraiment les effets de l'alcool sur la santé.
En effet, il y a probablement moins de sensibilisation qui a été faite par rapport à ça que par rapport au tabagisme. Puis du côté des médecins ou des professionnels de la santé en général, est-ce que dans la littérature jusqu'à présent, vous avez trouvé des données différentes par rapport à ça? Puisque eux, on ne manque pas d'informations, je présume.
Il n'y a pas vraiment d'études en comparaison à tabagisme et cancer du poumon qui vont venir étudier les attitudes des médecins concernant la consommation d'alcool et le développement de cancers colorectaux. Souvent, et du coup, je m'y suis un peu moins intéressée, ça va être encore une fois alcool et cancer du foie. Et encore, il y a beaucoup moins d'études que tabac et cancer du poumon.
D'accord. Je ne me rappelle pas, est-ce qu'il y avait d'autres études que vous alliez mener dans le cadre de votre thèse?
Du coup, il y a eu une autre étude qui a été dans le recueil de données terminé, mais pour lequel je n'ai pas du tout analysé les résultats, qui concerne cette fois le niveau socio-économique, et donc voir voilà, si le niveau socio-économique peut influencer le jugement de la part d'autrui concernant donc une personne consommatrice d'alcool à qui on diagnostique un cancer. Cancer du foie, cette fois. Parce qu'on sait que indépendamment des addictions ou d'un diagnostic de cancer, déjà, les niveaux socio-économiques peuvent être jugés et stigmatisés, surtout s'ils sont, on va dire, considérés comme plutôt bas, puisqu'on leur associe souvent des attributs beaucoup plus négatifs qu'à des personnes qui auraient un niveau socio-économique élevé. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, on a plutôt tendance à leur donner comme adjectif que ce sont des personnes feignantes ou des choses comme ça, comparées à des personnes qui ont un haut niveau socio-économique et qu'on qualifierait d'intelligentes, de travailleuses. Donc, on a voulu voilà, voir si, est-ce que si on rajoute cette donnée-là dans le cadre très précis de consommation d'alcool et cancer du foie, on retrouve les mêmes résultats ou non.
En terminant, j'aimerais qu'on aborde les impacts des jugements de la stigmatisation des addictions. Donc, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais quelles sont les conséquences de ça pour les personnes atteintes d'un cancer ou qui pourraient être atteintes d'un cancer?
Donc, il faut savoir que ce jugement et cette stigmatisation engendrés donc, vont avoir quand même de nombreux effets, on va dire, néfastes. Et premièrement, donc moi, je suis en psychologie, je vais parler plutôt de ça. On sait que la stigmatisation perçue va engendrer chez ces personnes une augmentation des troubles de l'humeur, donc par exemple de la dépression ou encore des troubles anxieux, ce qui va engendrer une diminution de la qualité de vie. Et donc, on sait déjà que les personnes à qui on diagnostique un cancer, n'importe quel type de cancer, vont forcément avoir une diminution de leur qualité de vie. Et donc, en fait, l'addiction et le jugement de cette addiction va exacerber cette diminution-là. Du coup, il faut aussi avoir en tête et se rendre compte qu'une addiction, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, et même recevoir un diagnostic de cancer ne permet pas forcément aux personnes de quitter cette addiction, puisque ben voilà, on sait que l'addiction est, on va dire, multifactorielle et souvent peut venir combler quelque chose, une défaillance chez la personne qui peut être présente depuis des années, voire depuis l'enfance, ou une accumulation de traumas. Et c'est pas parce qu'on reçoit un diagnostic qui peut nous faire sortir de l'addiction, parce que ça existe des personnes qui arrêtent. Voilà, l'addiction est un vrai trouble et en soi même une vraie maladie dont on ne peut pas se soigner ou se sortir, entre guillemets, du jour au lendemain. Donc, et d'un côté plus, on va dire, plus de la médecine, il y a quand même un gros impact au niveau de la société qu'il faudrait réussir à gérer, selon moi. C'est qu'en fait, par culpabilité, par honte, ces personnes-là, donc, qui ont fumé ou qui ont bu tout le long de leur vie ou non, donc qui savent qu'elles ont eu un mauvais comportement à un moment donné, ne vont pas rentrer dans ce processus de dépistage pour lequel on se bat et pour lequel il y a beaucoup de campagnes mises en place. Et en fait, elles ne vont pas forcément se faire dépister de suite. Elles vont attendre d'avoir des symptômes tellement évidents que c'est quasiment sûr qu'elles auront un cancer. Et donc, forcément, elles sont prises en charge très tardivement et ont moins de chances de s'en sortir. Et donc, quand on vient questionner ces personnes-là sur pourquoi elles se sont fait dépister si tardivement, donc ça, c'est la littérature, c'est pas mes études, elles vont répondre qu'elles savaient qu'elles seraient jugées de la part des professionnels de santé et elles ont préféré ne pas rentrer dans ce parcours de dépistage. Et puis, parfois, elles ont tellement, entre guillemets, internalisé cette stigmatisation et le fait qu'on leur fait ressentir que c'est leur faute, qu'elles se disent qu'il faut bien mourir de quelque chose et je ne vais pas me faire dépister, j'avais qu'à pas fumer toute ma vie et voilà, ça devait arriver. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de revoir ou de voir tout court comment on peut essayer de baisser ce niveau de jugement et de stigmatisation pour que les personnes aillent se faire dépister à temps. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de campagnes de prévention qui ont été mises en place, surtout sur le tabagisme, et qui ont eu un double impact, un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est que certaines personnes qui avaient ces addictions ont pu se dire « bon, ben, il faut que j'arrête, c'est mauvais pour ma santé ». Mais l'autre côté négatif, c'est que toutes les personnes qui n'avaient pas d'addiction ou même qui en avaient, ont pu se dire que c'était tellement mal qu'elles allaient se mettre à juger les autres en quelque sorte, mais enfin, collectivement et inconsciemment surtout. Et donc, en fait, oui, ces campagnes de prévention ont aussi pu engendrer la stigmatisation des comportements de santé, sachant que pour la plupart, que ce soit le tabagisme ou la consommation d'alcool, on est passé de quelque chose qui était complètement accepté sociétalement. Pour vous dire, c'était tellement accepté dans nos mœurs qu'on est passé du tout au tout. Et je pense que ça a eu des côtés positifs pour beaucoup de choses, mais d'un autre côté, ça a renforcé, oui, ce jugement qu'il y a envers les personnes qui ont ces comportements.
Merci. En terminant, considérant tout ce que vous avez lu, les recherches que vous avez menées jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aider à diminuer la stigmatisation des addictions par les professionnels de la santé et dans la population en général?
Alors, comment on pourrait les diminuer? Là, je pense que je n'ai pas de réponse claire, nette et précise. La seule réponse que j'aurais, c'est voilà, quel profil on doit prendre en charge directement et plutôt du coup d'un côté psychologique, puisqu'on sait, donc je le répète, que cette stigmatisation, elle va engendrer l'augmentation de troubles anxieux, dépressifs et une diminution de la qualité de vie. Donc moi, ce que là, je pourrais recommander avec mes résultats, c'est quand on a quelqu'un qui vient se faire dépister et à qui on diagnostique un cancer, donc de le rediriger directement vers un psychologue et plus précisément donc des personnes qui avaient une haute, là je vais parler que du tabagisme et cancer du poumon, qui avaient une haute consommation de cigarettes, donc par exemple un paquet par jour, à qui on diagnostique un cancer du poumon à un stade précoce, donc dont ses chances de survie sont quand même supérieures à 5 ans, et qui avait une activité physique, on va dire, basse ou même inexistante, qui n'a jamais vraiment trop fait de sport. On sait que voilà, mes résultats ont montré que c'est ces personnes-là qui étaient les plus à risque d'être jugées, que ce soit par le tout venant, donc leur entourage ou les professionnels de santé. Donc je pense que pour un peu prévenir les effets néfastes, donc diminution de la qualité de vie, ces personnes-là devraient être directement redirigées vers un psychologue qui pourra travailler sur cela et l'accompagner au mieux dans son traitement, que ce soit dans le traitement ou dans ce qu'elle va vivre à côté.
Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui.
Ben, merci à vous de m'avoir donné cette opportunité, du coup.